Ce troisième cours consacré à Ludwig Mies van der Rohe porte sur son œuvre telle qu'elle se déploie, telle qu'elle s'épanouit en quelque sorte au cours des années 20 et notamment dans la seconde moitié des années 20, un moment pendant lequel il parvient à obtenir des commandes significatives en Allemagne. Ces commandes significatives lui permettent d'exprimer les nouvelles orientations de son travail architectural qui le voit en quelque sorte se déplacer du constructivisme de ses premiers projets. J'ai souligné sa relation avec Van Doesburg et avec Lissitzky. On le voit flirter avec l'expressionnisme, notamment en termes de matériaux, dans l'utilisation de la brique. Et se rapprocher des thèmes du Neues Bauen, de la nouvelle manière de construire de l'Allemagne de Weimar et de son esthétique plutôt blanche. Alors, le projet auquel aboutit cette nouvelle démarche à la fin des années 20, sur lequel je reviendrai dans le détail, c'est celui des maisons Hermann Lange. On peut parler d'un seul projet, ces deux maisons sont presque jumelles, des maisons Hermann Lange et Josef Esters à Krefeld, construites à la fin des années 20, qui marquent un seuil dans l'ampleur et aussi, je dirais, l'audace des projets réalisés de Mies van der Rohe. Je voudrais d'abord évoquer sa nouvelle stature professionnelle, celle qu'il acquiert autour de 1925. Il est alors reconnu comme l'une des figures incontestées de l'architecture nouvelle et se trouve bien établi à Berlin, dans un petit immeuble qui lui sert à la fois de bureau et d'habitation, sur une rue dénommée Am Karlsbad, qui se trouve au bord du Landwehrkanal, pas très loin d'ailleurs de la bibliothèque d'État que Scharoun construira dans les années 60 et de sa propre National Gallery, achevée en 1968, son dernier bâtiment à Berlin. Donc Mies se trouve dans cet endroit très central. L'immeuble a été détruit par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il en reste un dessin par le fidèle assistant de Mies, Sergius Rügenberg, qui nous montre ici le logement de Mies au premier étage. Ici habitait Mies van der Rohe, et au niveau inférieur, eh bien, on voit on voit ici l'entrée, la salle de travail, la salle de dessin où se trouve Rügenberg, une salle de séjour où se réunissent les organisations auxquelles Mies appartient et celles qu'il fonde. Je vais l'évoquer dans un moment. Ici, le responsable des chantiers. Bref, un petit immeuble compact, très efficace pour le déploiement de l'activité professionnelle et, je dirais, institutionnelle ou associative de Mies. En effet, il a adhéré au Deutscher Werkbund, à cette association créée en 1907 pour rapprocher l'art et l'industrie. Il en devient le vice-président. C'est donc un architecte engagé institutionnellement. Surtout, il fonde en avril 1924 le Ring, c'est-à-dire l'anneau, organisation destinée à s'opposer au nom des idéaux de l'architecture moderne, au Bund Deutscher Architekten, à l'organisation officielle, un peu l'équivalent de l'ordre en France, Bund qu'il trouve trop conservateur et dont il démissionne avec éclat en 1926, alors qu'il est membre de sa direction régionale. Il va diriger l'activité du Ring en liaison très étroite avec Hugo Hering, architecte dont j'aurai l'occasion de reparler, assez éloigné avec lui sur le plan des idées architecturales, mais engagé dans la même barque, je dirais, avec d'autres architectes importants. Les signataires du manifeste du Ring en 1924 sont notamment Otto Bartling, architecte expressionniste, Peter Behrens, le mentor de Mies, Hering, Erich Mendelssohn, Hans Pölzig, grande figure professionnelle et enseignant extrêmement influent à Berlin, Bruno Taut aussi, qui est un des chefs de file des architectes radicaux et qui émerge à ce moment-là de l'expressionnisme. Donc, Mies est, encore une fois, un homme qui utilise les réseaux institutionnels pour construire sa stature, je pense sans nécessairement y voir un vecteur pour obtenir des commandes, mais sur la base de ses convictions radicales. Il élargit aussi la palette de ses projets, comme le montre l'intérieur de son appartement de l'immeuble à Carlsbad, où on le voit travailler à élaborer une gamme de meubles en bois, orthogonaux, assez austères, mais malgré tout dans de très beaux matériaux. Ici, les veines du bois de palissandre viennent donner une finesse et une qualité de texture à des formes orthogonales assez définies et peu pittoresques en fin de compte, qui s'opposent fortement à ce qu'était la production mobilière allemande avant 1914. On verra comment ces thèmes se déploient dans le reste de sa production de meubles au cours des années 20 et au début des années 30. Alors, dans ce cadre nouveau, l'architecture moderne, avec ses volumes lisses et ses toits plats, trouve de nouveaux adeptes. Et donc, Mies peut unifier, je dirais, réunifier les deux composantes, les deux hémisphères de sa production du début des années 20, où les projets alimentaires comme la maison Mosler étaient des projets traditionnalistes, des projets avec un toit en pente, avec une composition symétrique, des projets un peu rigides et très fermes au milieu de leur terrain, auxquels s'opposait l'expansion beaucoup plus libre de la maison de campagne en béton ou surtout de la maison de campagne en briques. Ici, un exemple d'un de ces projets, c'est celui qu'il élabore pour Walter Dexel, qui est un peintre, qui est le directeur de la Kunstverein, de l'association pour l'art d'Iéna, où il avait exposé l'architecture des novateurs, des radicaux. Vous voyez, on sait peu de choses de ce projet. On en voit ici une petite perspective, un plan dans lequel on retrouve finalement l'idée du massif assez épais de la maison de campagne et des murs, des longs murs de la maison de campagne en briques. On trouve aussi dans le dessin des fenêtres un écho de cette maison de campagne en briques, les éléments, le groupement de ces éléments autour de cette épaisse cheminée faisant penser assez à Frank Lloyd Wright. Ici, un autre projet, donc Dexel se brouille avec Mies parce qu'il considérait que les délais de construction et d'études que lui proposait Mies étaient excessifs. C'est un projet en tout cas extrêmement limpide dans l'introduction d'un principe de réalisme dans le projet très ambitieux, très, très ramifié de la maison de campagne en briques. Le projet pour le banquier Ernst Eliot, lui, est un projet situé sur un terrain proche de Potsdam, et c'est un projet dans lequel Mies s'efforce de rapprocher cette fois les principes de la maison de campagne en béton des limites d'un programme réel. Vous voyez ici que le plan reste un plan, c'est un plan tentaculaire, mais sans excès, un plan qui s'étend sur le terrain, avec des murs assez épais en blocs de ciment. Vous voyez donc avec certainement des linteaux en béton armé. Le projet n'a pas été extrêmement détaillé, mais vous voyez que cette idée de la ramification du bâtiment sur le terrain se trouve contenue dans une forme qui est assez ramassée, moins que celle de la maison d'Excel, qui était évidemment plus modeste. On connaît une perspective de ce... Oui, voilà le plan de la maison d'Excel que je ne vous ai pas montré. C'est un plan extrêmement simple, deux volumes rectangulaires et une distribution sans couloir extrêmement simple dans laquelle l'atelier répond à la salle de séjour et à la salle de séjour et à la salle à manger. Donc très simple, le projet de Deliat est beaucoup plus complexe et raffiné. On connaît une perspective de la maison Eliade qui est intéressante parce qu'elle nous montre donc ces hauts murs en béton verticaux sur lesquels ruisselle une végétation assez généreuse, un schéma de couleur donc qui nous montre que Miss avait une forte comme on l'a vu avec les perspectives de la maison de campagne en béton, une forte inclinaison vers la couleur que les documents conservés ne permettent pas toujours d'apprécier. Je rapprocherai volontiers cette perspective de celle, malheureusement noir et blanc, de la maison Hollyhock de Frank Lloyd Wright à Los Angeles, qui est publiée au même moment, un peu auparavant, dans un des numéros que la revue néerlandaise Vendingen consacre depuis 1921 à l'œuvre de Miss en Californie. Donc, à l'œuvre de Wright en Californie, Miss redécouvre donc l'œuvre de Wright, non plus les premières maisons, les maisons sur la prairie dont j'ai parlé déjà, mais il découvre les développements ultérieurs de l'œuvre de Wright et notamment cette relation des volumes cubiques avec la végétation, cette hiérarchie entre les éléments verticaux et ceux qui se prolongent sur le terrain, qui clairement l'inspire pour cette maison Eliade. Je parlerai ici, petit excursus, petite diversion, je parlerai en quelques mots de certaines des directions importantes de l'architecture allemande, en n'insistant pas de manière excessive sur le Bauhaus. Le Bauhaus est en général la seule institution, je ne dirais pas la seule écriture, parce qu'on ne peut pas résumer le Bauhaus à une seule écriture, qui retient l'attention, notamment en Allemagne, à cause du pouvoir de propagande qu'a exercé Walter Gropius en matière de propagande. Mais l'architecture allemande des années 20 a bien d'autres orientations. Et il est intéressant de voir ici l'œuvre de certains des membres du Ring, dont certains des architectes regroupés autour de Miss, ou des architectes avec qui Miss a un rapport, donc avec qui il a un rapport, non pas de complicité, mais en tout cas un rapport d'alliance en matière de politique culturelle. L'un d'entre eux, c'est Hans Poelzig, qui enseigné à Breslau, qui vient enseigner à Berlin, à l'université technique, qui avait été le concurrent de Miss, on s'en souvient, lors du concours de la Friedrichstrasse en 1921, avec ce projet très, très sombre. Poelzig s'est fait connaître avec quelques réalisations remarquables, notamment cette salle de spectacle pour Max Reinhardt, extraordinaire grotte à stalactites, qui est un des intérieurs les plus étonnants du Berlin des années 20. Mais cet expressionnisme qui s'exprime dans les projets, dans les réalisations de Poelzig, a aussi des polarités extérieures à Berlin, éloignées de Berlin, et je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit ce qui se trame et ce qui se construit, par exemple, dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg. Le Hille House, ce grand immeuble de bureau de Fritz Höger avec cet angle spectaculaire, montre comment le capitaliste du nord de l'Allemagne s'accommode de formes nouvelles, abandonne les bâtiments en forme de palais pour imaginer des vaisseaux de briques sombres et dynamiques. Höger travaille à Hambourg, à Brême, c'est Bernard Höttger qui revient sur l'architecture médiévale et ses édifices verticaux et qui les révise, qui les réinterprète avec des formes nouvelles, notamment cette forme cylindrique et cette coupole que vous voyez à droite. À Berlin, le thème de la brique que l'on va voir apparaître dans l'œuvre de Mies, on l'avait déjà vu par exemple dans la maison Mosler, on va le voir conjugué à des formes modernes, le thème de la brique fait venir à l'esprit la manière dont Bruno Taut l'utilise dans un ensemble d'habitations tout à fait remarquable au Schiller Park à Berlin, qui est un des premiers projets avec lesquels il répond au programme social de la municipalité de Berlin. Taut est aussi, je l'ai dit, un des signataires du Ring. Mais la figure principale à l'intérieur du Ring est sans doute celle d'Erich Mendelssohn, qui travaille à Berlin, qui a notamment des contacts très étroits avec l'intelligentsia et la bourgeoisie juive. Donc ici, la surélévation de l'immeuble du Berliner Tageblatt de Rudolf Mosse, éditeur extrêmement influent. Vous voyez à gauche donc le bâtiment originel, et ici la reconstruction récente. Vous voyez que c'est sur un bâtiment avec une façade ordonnancée en pierre que Mendelssohn vient en quelque sorte projeter cette nouvelle organisation qui souligne les lignes horizontales de l'îlot et non plus l'accumulation verticale des étages. Donc c'est un immeuble extrêmement frappant dont la reconstruction est assez efficace, mais vous voyez qu'au passage, le bâtiment éclectique a été victime des bombes. Mendelssohn, je l'ai déjà montré, est l'auteur de la tour d'Einstein, qui n'est pas un observatoire à proprement parler, mais un laboratoire consacré à l'étude du rayonnement solaire. Mendelssohn réalise des ensembles industriels extrêmement puissants dans leur langage formel. Ici, l'usine de chapeaux de Luckenwalde, au sud-ouest de Berlin, dont les séchoirs sont particulièrement frappants, ces grands séchoirs qui sont fondés sur un principe de circulation de l'air rendu possible par cette forme. Mendelssohn est aussi un architecte qui est actif dans la construction de grands magasins qui vont marquer le centre de certaines villes d'Allemagne. Ici, à Chemnitz, les magasins Schocken, que l'on voit de jour et de nuit. Donc, c'est un langage qui est celui de l'extension horizontale des façades, de bâtiments qui deviennent des pivots, des articulations urbaines extrêmement spectaculaires. C'est le cas pour celui-ci, dans lequel l'horizon de la construction navale n'est pas absent. Enfin, à Berlin même, cette même vision aérodynamique de l'architecture que Mendelssohn développe, déploie dans ses croquis, se retrouve à l'extérieur et à l'intérieur du cinéma Universum, construit sur le Kurfürstendamm, qui est l'une des expressions de cette campagne très massive de construction de cinéma, une pratique très développée dans l'Allemagne de Weimar. Du côté des amis plus proches de Mies, je soulignerai le travail de Hugo Hering, dont j'ai déjà parlé. Hugo Hering se fait remarquer notamment par la construction de cette ferme dans le nord de l'Allemagne, où vous voyez un plan assez organique, un plan assez flexible, qui n'a que très peu d'orthogonalité, et conjugué à l'utilisation des matériaux, je dirais, traditionnels de l'architecture du nord de l'Allemagne. Le bois, c'est lambris de bois extérieur, mais aussi le béton armé, les chaînages en béton armé. C'est donc une architecture qu'il faut regarder en ayant toujours à l'esprit la maison de campagne en briques de Mies van der Rohe, qui finalement travaille avec des matériaux du même ordre, pas le bois, mais en tout cas ce rapport entre briques et une utilisation minimale du béton. Hering et Mies entretiendront un rapport très étroit, une correspondance, des conversations assez étroites pendant longtemps. Un autre contact et un ami de Mies, qui, comme lui, vient de la Rhénanie, et comme lui est de matrice catholique, mais contrairement à Mies qui était agnostique, lui est un catholique convaincu. Au moment où les expressionnistes tels que Bruno Tarte, Charoun ou les frères Leuckart échangent ce qu'ils appellent les correspondances utopiques de ce qu'ils appellent la chaîne de verre, eh bien Schwartz, quant à lui, utilise des thèmes religieux. Gloria pour dénommer cette étude utopique. Dans les années 20 et dans les années 30, il construira plusieurs églises modernes, notamment à Cologne, où il est installé, mais aussi à Aix-la-Chapelle, dans la région. Schwartz restera pendant très longtemps un interlocuteur de Mies, mais ils entreront en conflit, j'aurai l'occasion de le souligner, dans les années 50, lorsque Schwartz contestera, s'opposera à l'héritage du Bauhaus dans la République fédérale d'Allemagne naissante. Mies rate une occasion en 1925, et ceci nous montre bien que son engagement institutionnel, associatif, avait des limites. Il refuse de devenir architecte en chef de Magdebourg, ville située à une centaine de kilomètres à l'ouest de Berlin, Magdebourg, où la ville avait été planifiée, avait été transformée par Bruno Taut, qui pendant plusieurs années avait été l'architecte en chef de la ville, l'avait transformé structurellement et avait mis en œuvre un programme radical de mise en couleur des façades qui a été récemment restauré. Donc, Mies se refuse à remplacer Bruno Taut pour, dira-t-il, ne pas être prisonnier des partis politiques. Alors justement, partis politiques, parlons-en. Taut était proche du Parti social-démocrate, il était même à certains moments proche du KPD, du Parti communiste. Ce n'était pas le cas de Mies, qui était, quant à lui, plus proche du Parti démocratique, du Deutsche Demokratische Partei, un parti en général favorable à la culture moderne et notamment à l'architecture moderne. Mais plus qu'avec les partis, il se rapproche de certains mouvements culturels de matrice catholique. Le principal d'entre eux s'appelle Quickborn. Quickborn, cela signifie la fontaine de jouvence, dont le théoricien est le prêtre catholique Romano Guardini, auteur de ces lettres du lac de Côme, dans lesquelles il prône la soumission de la puissance irrésistible de l'industrie, donc la soumission de l'industrie moderne européenne et allemande en particulier, à la force de l'idéal. Et cette force de l'idéal, pour Guardini, qui n'est pas un penseur catholique orthodoxe, ce n'est pas simplement saint Augustin, que Mies lira beaucoup, c'est aussi Platon et Nietzsche. Une dimension plus spirituelle pénètre ainsi le discours de Mies, et elle se révèle par exemple dans une conférence de 1926 dans laquelle il écrit, il déclare « L'architecture n'est pas la solution de certains problèmes formels, même si ceux-ci en sont une partie intégrante. Mais elle est toujours, je le répète, l'accomplissement formel de décisions spirituelles. L'accomplissement spatial de décisions spirituelles. » Donc une position qui est une position qui élabore, qui développe celle de ses manifestes du début de la décennie. Schwartz n'est pas le seul, et Guardini, pardon, n'est pas le seul auteur que lit Mies dans cette période. Il étudie les textes de Schwartz sur la philosophie de la technique, mais aussi ceux de Friedrich Dessauer, qu'il lit avec attention, comme le démontrent les notes de lecture de la fin des années 20, qu'il consacre à ses ouvrages et qui ont été conservés au Museum of Modern Art. Donc on trouve aujourd'hui les notes de lecture de Mies qui, au moment où il imagine encore peut-être rédiger ce livre dont j'ai parlé, il se serait intitulé Baukunst, c'est un moment où il s'intéresse très précisément donc à la pensée de la technique de Schwartz, Guardini et Dessauer. Les nouvelles orientations de Mies dans son travail de projet vont se révéler avec la maison Wolff, qu'il construit entre 25 et 27 dans la petite ville de Guben, qui s'appelle aujourd'hui Gubin, ville polonaise qui se trouve aujourd'hui au droit, précisément au droit de la frontière entre la Pologne et l'Allemagne, telle qu'elle a été établie en 1945, lorsque les Soviétiques ont redécoupé la limite entre Allemagne et Pologne de manière à compenser la captation, l'annexion qu'ils faisaient au même moment des territoires polonais de l'Est. Donc Gubin se trouve d'ailleurs très la maison Wolf, que vous voyez ici, comme le montre cette petite axonométrie sur le terrain, se trouve très précisément sur une parcelle extrêmement étroite et très longue, exactement au-dessus de la rivière Neisse, qui avec l'Oder forme cette frontière, comme chacun le sait. Cette maison, l'industriel Erich Wolf, qui était engagé dans le textile, en fait Gubin était une ville très active en matière de production textile, et notamment et de production de chapeaux. Wolf avait été conquis par la visite d'une autre maison que l'on connaît moins bien de Mies, la maison Kempner, et il demande donc à Mies de travailler sur cette parcelle surplombant la vallée, un peu à la manière finalement de la maison Riel, de sa première maison. Mais on voit bien que le langage de Mies a radicalement changé. D'une part, et c'est un des aspects intéressants de cette maison, elle semble être en quelque sorte, comme le dit Frank Lloyd Wright de son côté, elle semble être générée, être produite par le site, par les murs de soutènement en moellon, qu'elle finit par compléter, utilisant la brique visible. Ici, c'est l'aspect moins spectaculaire de la maison depuis la rue. Cette maison, elle est évidemment bien plus intéressante, bien plus complexe du côté de la pente, du côté du jardin, que du côté de la rue, où elle est en quelque sorte assez hostile. Elle se ferme par des murs assez peu percés. En revanche, elle s'ouvre sur ce jardin très minéral. Donc, j'ai parlé du jardin architectonique à propos de la maison Riel. Ici, le rapport entre le jardin et la maison est bien plus étroit, puisque c'est une même entité habillée de briques, dont la structure de base est en béton armé, mais c'est une même entité, comme on voit ici ce porte-à-faux et cette poutre en béton armé. Donc c'est la même entité matérielle qui est à la fois ouverte, qui est la plateforme de la partie minérale du jardin, et qui est en même temps la maison elle-même. Si on regarde le plan de cette maison, on y retrouve l'aspect, je dirais, tentaculaire, proliférant, des plans comme celui de la maison de campagne en béton et surtout de la maison de campagne en briques. On voit que, comme la maison de campagne en briques, ici, il y a une très grande fluidité entre les pièces, très grande fluidité. Il n'y a pas d'enfilade, de pièces en enfilade, mais une fluidité de la circulation, notamment au niveau du rez-de-chaussée, avec donc cette pièce principale, cette halle principale, le séjour, la salle à manger ouvrant et toutes ces pièces ouvrant sur la terrasse, et ici le bloc salle à manger cuisine. La chambre principale se trouve dans, comme vous le voyez ici, dans l'angle, avec une alcôve en brique se projetant vers l'extérieur. Voilà, je pense, la seule photographie de l'intérieur qui est survécu, dans laquelle on retrouve un mobilier très semblable, table et chaise, à ce que Mies avait conçu pour son usage à Berlin. Donc la maison très spectaculaire au-dessus de la pente, comme on l'a vu ici, devient une sorte d'icône locale, pour reprendre le terme qu'a proposé Barry Bergdahl. Elle montre aussi, cette maison, comment Mies déploie une espèce de désir de maîtrise complète de l'espace extérieur, de l'espace de la terrasse jardin, qui est bien plus déterminé que ce qu'il avait fait auparavant. On le voit encore mieux lorsque l'on voit depuis la maison le jardin lui-même. Ce jardin est corseté. Peut-être un des précédents ou un des termes de référence pour Mies est-il le jardin de la villa de Noailles de Malet Stevens par Gevrekian, qui avait été réalisé en 23-24 et dont il avait sans doute vu les publications. Donc il y a peut-être quelques sources exotiques à cette démarche. Mies a utilisé la brique, une brique plus industrielle, plus rugueuse encore, dans un projet très important qu'il réalise à Berlin en 1926. Ce projet, c'est celui d'un monument à Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg sont deux leaders de la gauche social-démocrate allemande qui étaient pacifistes pendant la guerre, qui s'étaient opposés à l'Union sacrée dans laquelle avait sombré le Parti social-démocrate et qui, au moment de la révolution de novembre 1918 à Berlin, vont être à l'origine de l'apparition d'une alternative radicale, d'une alternative alignée sur les bolcheviks et placée à l'enseigne du spartakisme. Ils seront exécutés par les forces de la réaction armée. Et le Parti communiste allemand, le KPD, décidera de leur ériger un mausolée à Berlin. Alors, l'histoire de ce bâtiment est intéressante, car la commande était tout sauf évidente. Mies jusque-là s'était manifesté fort peu dans le champ explicitement politique. Comme je l'ai dit, il était actif sur le front associatif, mais il n'était pas véritablement aligné politiquement, il était plutôt de centre-gauche, dirait-on aujourd'hui. C'est en fait par l'entremise d'un personnage extrêmement intéressant du nom de Rudolf d'Edward Fuchs qu'il va se trouver engagé dans l'opération. Au passage, je souligne qu'il y avait des précédents. D'autres monuments avaient célébré les victimes de la violence de droite. Par exemple, ce monument érigé par Walter Gropius à Weimar pour commémorer le putsch de Cap de 1920, lors duquel plusieurs militants avaient été tués. C'est un monument intéressant. Il sera détruit par les nazis dans les années 30. Et il a été reconstruit de façon assez fidèle à l'original. C'est un monument de béton armé, vous le voyez ici, qui est une sorte d'éclair inversé. Au lieu de frapper le sol, cet éclair qui trouve son origine dans le volume horizontal, cet éclair se dresse vers le ciel au lieu d'en descendre. Donc c'était certainement un des monuments que tout le monde avait à l'esprit à propos. Au moment où la réflexion sur le monument à Liebknecht et à Luxembourg commençait. En fait, l'origine de la commande se trouve dans la villa, physiquement dans la villa Perls, dont j'ai parlé dans le premier cours. Cette villa de Hugo Perls est habitée dans les années 20, par Edward Fuchs, personnage extrêmement intéressant, un ancien typographe devenu administrateur du quotidien social-démocrate Le Vorwärts. Fuchs, mais plutôt engagé dans la gauche social-démocrate, Fuchs était un intellectuel qui avait publié plusieurs ouvrages d'histoire de la culture, notamment d'histoire des mœurs sexuelles, et qui était lui-même un collectionneur assez actif. Il possédait une très grande collection de gravures, parmi lesquelles 6 000 lithographies de Daumier. Et il commandera d'ailleurs à Mies ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une extension à rez-de-chaussée de la villa Perls que vous voyez à l'arrière-plan pour abriter sa collection. mais il restait en contact avec Perls, et c'est Perls qui rapporte les conditions de la commande du mausolée par le Parti communiste allemand. Mais Perls rapporte aussi, c'est intéressant malgré tout, que Mies avait rencontré Liebknecht avant 14 dans sa maison et qu'il avait promis à Mies avant 14 qu'il lui donnerait des commandes après l'éventuelle victoire des socialistes. Donc j'évoque cette anecdote dont Perls fait état dans ses mémoires pour montrer qu'au fond, Mies, au-delà, je dirais, de la dimension proprement politique de ce mémorial, de ce monument, avait sans doute un lien affectif avec Liebknecht qu'il entendait perpétuer. En tout cas, il est consulté par les dirigeants communistes et il racontera plus tard dans un entretien qu'il fut horrifié par le monument officiel à colonnes envisagé par le parti, qu'il considéra comme étant digne d'un banquier, mais pas de deux révolutionnaires. Et il raconte avoir dit à Fuchs que si on lui demandait son avis, il dirait que dans la mesure où Liebknecht et Luxembourg ont été fusillés contre un mur, je construirais un mur en briques. Et en fait, ce qu'il utilise comme source, c'est un monument que l'on connaissait bien au-delà de Paris à ce moment-là, c'est le monument de Moreau-Vautier aux morts de la Commune qui se trouve en contrebas du cimetière du Père-Lachaise à Paris. Ce monument dans lequel on voit les victimes émerger, se détacher du mur derrière elles. Monument en pierre. Rugenberg, l'assistant de Mies, hein, dont j'ai déjà parlé, affirme quant à lui qu'il pensait que Mies pensait aussi à un ensemble de blocs de basalte. Mais dans le discours, dans la discussion avec Wilhelm Pick, qui est le dirigeant avec qui Mies est en contact, ce mur apparaît comme vraiment, ce mur du Père-Lachaise, comme vraiment une source tout à fait utile, tout à fait pertinente. Fuchs parvient donc à lui obtenir la commande, qu'il réalise en quelques semaines. Voilà donc le plan de permis de construire qui nous montre l'idée de ce monument. Ce monument est un mur épais, mais un mur qui a aussi, on le voit déjà sur cette coupe très sommaire, un mur qui a un relief assez complexe, placé au milieu d'un carré dans ce cimetière, de sorte à pouvoir servir aux commémorations. En effet, ce monument n'est pas qu'une stèle, c'est une sorte de grande stèle, mais c'est surtout, c'est aussi une tribune. C'est donc un monument dynamique, si je puis dire, sur lequel Mies travaille, avec initialement l'idée d'y poser l'inscription « Ich war, ich bin, ich werde sein »,« J'étais, je suis, je serai », extraite du dernier article publié par Rosa Luxemburg. Donc c'est un énoncé qui est très populaire dans la gauche allemande de l'époque. Le monument est réalisé avec des briques autour d'un noyau de béton, ce qui permet à ces briques d'être en porte-à-faux de chaque côté, de ne pas être simplement, je dirais, posées selon un principe de gravité. Ces briques sont des briques industrielles, des briques flammées, très dures, et on voit comment Mies les travaille. L'appareillage n'est pas laissé au hasard. On voit notamment que la plupart des assises sont des assises de ce que l'on nomme des paneresses, c'est-à-dire des briques posées en laissant leur face longue et étroite visible, et que les linteaux, ici et là, sont appareillés par des boutistes, c'est-à-dire des briques qui laissent apparaître leur face la plus petite, la plus étroite et la plus courte. Donc il y a un travail expressif que l'on perçoit bien dans cette, euh, images noires et blanc, il n'y en a pas d'autres du bâtiment. On voit aussi donc l'idée d'une tribune sur laquelle on peut monter dans la partie basse et dans la partie haute, comme on va le voir. On y voit aussi cette grande étoile faite en acier par le sculpteur Herbert Garbe. Initialement, cette étoile, cette faucille et ce marteau sont donc commandés à un industriel rhénan comme Krupp qui refuse de les réaliser. Et elles seront fabriquées, ces pièces seront fabriquées ailleurs. Donc cette tribune d'une quinzaine de mètres de long va devenir, je dirais, le théâtre, la scène pour les manifestations politiques nombreuses. On voit ici comment elle ne cesse d'être utilisée pour les réunions politiques du KPD au cours des années 20. Voilà un exemple, en voici un autre. Une page de l'Arbeiter Illustrierte Zeitung qui nous montre ce bâtiment activé, je dirais, ce monument activé par la présence des bannières des organisations de gauche et célébré par cette inscription, cette citation de Karl Liebknecht. Il se trouve que j'ai trouvé, oui, Miss dira à propos de ce bâtiment, bien plus tard, 40 ans plus tard, en 1969, il se définit alors, c'est tout à fait intéressant, alors qu'il est aux États-Unis depuis 30 ans, comme un révolutionnaire rhénan. Est-ce l'effet des révolutions de 68? Je ne sais pas s'il en avait eu la notion. En tout cas, il se déclare révolutionnaire rhénan et il déclare plutôt, j'ai construit ce monument dans une forme carrée. La clarté et la vérité devaient se rejoindre contre le brouillard qui s'était levé et qui tuait les espoirs. Espoir, comme nous le percevions justement à l'époque, d'une République allemande durable. Donc, rétrospectivement, Mies aura une position ambiguë vis-à-vis de ce bâtiment. En 69, il l'assume pleinement. Au début des années 50, lorsque le macartisme était dominant, il tentait de faire apparaître sa commande comme totalement fortuite. Il est intéressant de voir ce bâtiment apparaître sur ce format de chanson, donc cette partition d'une chanson assez importante de toute la mouvance socialiste, la marche funèbre, et vous voyez qu'il est placé de façon tout à fait symptomatique entre le monument du Père Lachaise, dont j'ai parlé, et le mausolée de Lénine à Moscou. Mise au milieu, le monument de Friedrichsfelde du cimetière, où il sera évidemment détruit par les nazis en 1935. Les organisations de gauche de Berlin-Ouest tentèrent à plusieurs reprises de le reconstruire, mais cela ne se fit jamais. Peut-être un jour, cela redeviendra d'actualité. Mies, je l'ai dit, est donc pas directement affilié à gauche, mais il est malgré tout membre de l'association des Amis de la Russie Nouvelle, qui publie cette feuille, Das Neue Russland, comme par exemple Bruno Taut et Mendelssohn. Donc il a malgré tout, dans cette phase, je dirais, un certain penchant vers la gauche allemande. Cela ne l'empêche pas, évidemment, de travailler pour des industriels qui ont des orientations totalement différentes. Hermann Lange et Josef Esters. Lange est un industriel extrêmement actif, engagé dans les organisations du patronat allemand, engagé dans le Werkbund. C'est à Lange, on le verra dans le quatrième cours, que Mies devra la commande du pavillon de Barcelone en 1929. Lange est un client qu'il connaît, dont il fait la connaissance au travers de son ami Lili Reich, de l'ami de Mies Lili Reich, après qu'il ait tenté, Lange, de commander sa maison à Theo van Doesburg et à d'autres figures de l'architecture moderne. Lange après cette maison, continuera, on le verra, à soutenir pendant une dizaine d'années l'activité de Miss. Esters est tous les deux, Lange et Esters, sont engagés dans l'industrie textile et notamment dans l'industrie de la soie, et sont des collectionneurs. Lange était un collectionneur très important d'art moderne, il avait près de 300 peintures dans sa collection. Alors, ces deux maisons, voici Lili Reich, donc partenaire en matière d'architecture, et notamment d'architecture intérieure de Maison Vero entre, je dirais, 27 et le départ de Miss pour les États-Unis en 38, donc pendant une dizaine d'années, partenaire aussi sur le plan affectif. Lily aura un rôle très important dans la sauvegarde de l'héritage de Miss. Elle parviendra à sauver ses archives à la fin des années 30. Alors, Krefeld est une ville industrielle de la Ruhr, très active dans le domaine du textile, et vous voyez dans ce quartier résidentiel, les deux maisons presque jumelles, les deux maisons adjacentes en tout cas, de Esters ici et Lange, et leur voisine que j'ai photographiée. Voici donc ce que se faisaient construire les industriels de Krefeld jusque-là, sur la même Wilhelmshof-Allee où se trouvent les deux maisons de Miss. Donc c'était le langage dominant. On y voit déjà l'utilisation de la brique, mais cette brique est utilisée de manière très conservatrice, associée à des maçonneries de pierre. Ce n'est pas du tout le parti que prendra Miss. Ces maisons, d'ailleurs, ressemblent assez à la maison Mosler ou aux maisons plus traditionnelles que Miss avait construites jusqu'au début des années 20. Mais désormais, les choses sont différentes. Nous voyons ici, sur la vue satellite récente, que ce sont des maisons sans toit, que ce sont des maisons qui se déploient bien plus, de façon plus horizontale sur le terrain, et qui sont tendues entre la rue donc, et le jardin, avec deux visages complètement différents. Miss est ici au travail sur la maison Esther. C'est une image très intéressante qui nous montre qui montre quelle technique graphique il utilise sur ce rouleau de calque, donc un fusain, pour dessiner les murs épais de la maison. Ceci peut nous faire penser aux murs, sans pour autant définir des pièces fermées. C'est ce type de dessin qui avait conduit à la maison de campagne en briques. Les premières esquisses sont des esquisses dans lesquelles, voici un autre mise à l'œuvre sur une perspective. Les premières perspectives de cette maison qui sera réalisée en briques sont avec une ossature d'acier. Les premières perspectives sont opaques et du côté de la rue, c'est ce que vous voyez ici, donc la même façade esquissée par Miss, elles sont totalement vitrées du côté du jardin. Et donc Miss indique dans ses réminiscences sur ce projet avoir tenté d'utiliser largement les vitrages du sol au plafond, mais il indique que les clients n'aimaient pas ça et donc il renonça à cette idée. En revanche, ce que l'on voit fort clairement ici, c'est cette extension horizontale des maisons vers les extrémités du terrain, le système des emmarchements et des plateformes dont j'ai déjà souligné l'importance. Il est évident dans mon esprit que le rapport avec Frank Lloyd Wright est aussi très présent ici. J'ai en tout cas à l'esprit la maison Robbie de Chicago, qui était une maison que Miss connaissait très bien des publications allemandes des années 1910-1911. Cette maison qui s'étire à l'infini le long de sa parcelle à Chicago. Le travail, c'est ce que proposera dans une large mesure, mais évidemment avec des techniques constructives et une esthétique différente, la maison Esders et sa voisine. Voici les deux plans de ces maisons qui se ressemblent fort. On voit bien que ce sont deux variations sur un même thème. Les blocs de de la cuisine et de l'office sont presque semblables. La continuité des pièces, notamment, que distribue ce grand vestibule, Diele en allemand dans les deux cas, est proche, donc une distribution angulaire ici, une perception indirecte de la lumière venant du terrain. Vous voyez l'orientation de ces maisons, le nord est ici, donc elles sont orientées vers le sud-ouest, c'est une lumière du soir, et vous voyez que la maison la capte de différents, les deux maisons les captent par ces selon deux orientations, et que cette lumière est à peine perceptible depuis la Diele lorsque l'on entre. Et il y a donc une sorte de parcours de découverte de l'intérieur vers l'extérieur lorsque l'on entre dans les deux maisons. Parlons un peu de la maison Esther, c'est de son plan, donc la Diele dont je viens de parler ici, la chambre des enfants, la salle à manger articulée évidemment à la cuisine, les pièces de séjour des parents et les chambres seront au-dessus. Je rappelle à votre souvenir le projet de la maison de campagne en briques avec la même idée finalement, ces mêmes perspectives en diagonale. Qui font que l'on que les ouvertures finalement génèrent une lumière qui est à la fois captée directement et captée de façon plus lointaine en oblique. Hein. Toujours l'idée de Wright, une autre maison qui est une maison théorique du début du XXe siècle que Mies avait totalement à l'esprit en travaillant sur ce bâtiment. Voici l'intérieur du rez-de-chaussée de la deal de la maison Esther, ce qui nous montre cette ouverture du côté de la rue, puis le développement, la lumière que l'on perçoit depuis les pièces situées sur le jardin. Peu d'images ont été conservées de ces intérieurs. On voit qu'il rassemble à la fois dans le cas des Esther, ce qui était plus conservateur que les Lange, il conserve les matériaux, les mobiliers traditionnels allemands des familles bourgeoises, mais aussi des mobiliers comme ceux que l'on a vu apparaître dans l'intérieur de Mies lui-même. Alors voici l'aspect actuel de ces deux maisons qui sont devenues depuis les années 50 une filiale du musée d'art de Krefeld et qui sont en très bon état. On voit ici à la fois les traces d'indices de la face alambrique et ces encadrements de bois clair qui rythment les pièces et qui nous rappellent la qualité du travail de Mies sur la menuiserie. Donc, je passe assez vite. Ici, l'escalier nous conduit en haut où un long couloir distribue les chambres et le bloc des salles de bain. Voici la vue vers l'extérieur depuis l'étage et la salle de bain non restaurée, telle qu'elle était il y a une quinzaine d'années. Très important dans ces deux maisons, le travail de la brique. Ce sont des briques dites de Bockhorn, qui sont des briques partiellement vitrifiées, donc tout à fait dures, et que Mies dessine de manière extrêmement précise. Il fait des dessins de chaque façade au 1/20, ce qui est quand même très précis, tout en réfléchissant par ailleurs, vous voyez dans la marge de ce dessin au mobilier. Et il donne des indications très précises sur le placement de ces briques, comme vous le voyez ici. Donc, le placement des briques qui sont ici des pannerets, ainsi que je l'ai dit. Vous voyez ici des pannerets, des briques longues, montrant leur côté long, et ici des boutisses au droit du linteau. Évidemment, ces briques ne sont pas porteuses. Ces deux maisons sont des maisons dont la structure est une structure métallique. Mais cette structure métallique reste cachée. C'est un caractère important de ces maisons qui les distingue de celles qui vont suivre. La structure métallique est cachée, elle est habillée à l'extérieur de briques et à l'intérieur par les parois que j'ai vues. La même solution se répercute à la maison Hermann Lange, qui est plutôt plus grande. Vous la voyez en 30 et il y a une quinzaine d'années, elle a fort peu changé. Voici la façade sur la rue à droite et la façade perpendiculaire sur les pièces de service qui sont traitées de manière tout à fait digne. Et voici la vue depuis le jardin qui nous montre des effets tout à fait comparables à ceux de la villa Esters. Le plan, lui aussi, et que l'on a vu tout à l'heure dans une version récente redessinée, est un plan du même ordre, dans lequel, à nouveau, le travail sur l'utilisation de ces pièces angulaires est orienté vers le soleil du soir est assez remarquable. Voici l'intérieur du vestibule, de la dîle de cette maison, qui est plus grand. Ce vestibule est plus grand que celui des Esters et, comme vous voyez ici, constellé par des œuvres d'art plus puissantes. La salle à manger, avec le mobilier que nous avons déjà vu chez Nice à Berlin. Une pièce dans laquelle on trouve d'autres meubles de Nice, et notamment un pouf qui est aujourd'hui produit industriellement, qui est aujourd'hui reproduit, et on voit bien l'attention de Miss au déploiement horizontal du mobilier intégré. Aujourd'hui, cette maison, comme celle d'à côté, est le théâtre d'expositions temporaires. Elle a été très importante dans la chronique de l'art moderne dans l'Allemagne de l'après-guerre. Voilà l'extérieur de la maison avec toujours le même jeu, un jeu comparable sur finalement des matériaux qui sont des matériaux proprement industriels. Je crois qu'il y a une espèce de, je ne sais pas si c'est un certain sadisme de la part de Mies, mais en tout cas une volonté délibérée de rapprocher ces maisons de très 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 cossues, ces maisons aux espaces très généreux, du langage de l'industrie qui fournit les ressources permettant à ces deux familles de les construire. Une volonté de ne pas travestir, je dirais, cette dimension matérielle de la culture industrielle de la Ruhr. Les dessins sont de détails sont extrêmement soignés. Mies travaille de façon remarquablement précise à l'étude des maçonneries, à l'étude des parements, à l'étude de l'étanchéité, ce qui explique que ces maisons aient bien survécu. Voici le plan de l'étage de la maison Langer, qui a moins de chambres et dans lesquelles les chambres sont cette fois-ci intégrées plus étroitement avec les salles de bain. Et nous retrouvons sur la façade le travail sur ces stores coulissants et à enrouleur, le même jeu sur le même motif de briques que celui de la maison Esters. Le travail ici sur cette coupe nous permet de montrer comment tous ces systèmes sont intégrés, l'ossature métallique avec ses contreventements, le parement de briques à l'extérieur, le toit très légèrement en pente mais de manière imperceptible à l'extérieur car cela aurait gravement affecté la vision géométrique de l'ensemble. Et nous voyons aussi dans la coupe les enrouleurs des stores à l'intérieur des linteaux métalliques. Ce que l'on voit plus précisément ici dans ce dessin, le parement en brique, la poutre en I qui forme le linteau lui-même et ici le mécanisme du store. Donc c'est un travail qui entre dans un détail tout à fait précis et qui fait penser à ce projet de Berlare pour le château de chasse Sint-Hubertus, ce projet pour les Kröller-Müller. Pourquoi? Parce que dans ce bâtiment, Berlare avait utilisé de grands verres coulissants verticalement. Et ce sont ces grands verres coulissants que Mies utilisera aussi pour le rez-de-chaussée de la maison ici. Donc il y a un point de contact tout à fait précis entre l'architecture de Berlin ici et ces maisons. Pour les langues, et j'en termine, une dernière remarque. Ces maisons seront assez favorablement commentées par la presse. Et je citerai simplement un bref extrait d'un article de mes homonymes, le critique Walter Cohen, qui écrit à propos de cette maison en 1931 que cette maison tranche avec l'hostilité aux tableaux, aux peintures, de l'architecture, des habitations récentes. Donc, il est intéressant de voir ici des maisons qui ont un langage industriel à l'extérieur et qui, à l'intérieur, sont accueillantes à l'art moderne. Côté industrie, Miss réalise un troisième projet très particulier pour l'entreprise de Langen, les fabriques de soie unifiée. Donc, il construit une usine. Vous voyez ici qu'elle comprend à la fois des ateliers éclairés avec ses verrières et un bloc ici qui est un bloc d'ateliers qui reproduisent les ateliers traditionnels mais avec un langage bien plus moderne. Un bloc qui comprend ici des pièces superposées, des bureaux. C'est la première tranche construite au début des années 30. Ensuite, il ajoutera deux étages à ce bâtiment qui est malgré tout un des plus grands bâtiments par son volume qui lui appartient de réaliser en Allemagne autour d'un programme particulièrement clair de production industrielle. Voici l'image de cette usine aujourd'hui. On voit notamment le bâtiment vertical, ici des extensions plus le bâtiment avec l'horloge construit par Nice et quelques extensions plus tardives. Il est évidemment tentant de rapprocher ce bâtiment du Bauhaus construit par Walter Gropius à Dessau. Et donc de voir comment, avec ce bâtiment, Nice, en quelque sorte, à deux années de distance, rompt de manière très très délibérée avec le monde de l'architecture en briques qu'il avait déployé dans la seconde moitié des années 20. Ce bâtiment est toujours debout aujourd'hui et ses détails sont en bon état. Il témoigne en tout cas de cette exception dans la vie professionnelle de Mies, qui est la rencontre avec des industriels prêts à construire ses idées à la fois dans la sphère domestique et dans la sphère industrielle. Merci.